Écho d'économie, Georges Camoudova.
Le tour économique de la RDC avec ses reportages et ses interviews avec toute l'équipe aussi et surtout Jocelyne Moussaoukonde qui nous amène les informations.
Grogne au sein de l'hôtel Métropole de Matadi, les agents revendiquent 40 mois d'arriérés de salaire. Nous en parlons tout à l'heure avec Guy Roger Niampala et le chinchard. Ces poissons appelés Mpiobi, ces fonds rares et chers à Kinshasa. C'est le reportage que nous propose Kaziradi Kazadi dans la seconde partie de Écho d'économie.
Oui, Finlandou Kavidi sera l'invité de l'économie ce soir, la veuve de l'ancien premier ministre Jean Gouza, Carly Bond, aujourd'hui administratrice dans une institution bancaire, initie une banque pour les femmes. Vous l'écouterez dans 10 minutes.
Suggestions et réactions, n'hésitez pas. Un clic. Echo@radiookapi.net.
Alors, commençons par un tour du pays. Le laboratoire d'analyse des métaux majeurs installé dans le Katanga n'arrange pas les opérateurs miniers.
Après une première concertation à Lubumbashi la semaine dernière entre les miniers et le CEC, les deux parties se sont encore retrouvées aujourd'hui à Kinshasa au cabinet du ministre de Mines pour trouver un accord cadre qui doit définir le système déclaratif des minerais congolais destinés à l'exportation. Une autre rencontre est prévue au courant de la semaine et ce sera peut-être l'occasion pour les uns et les autres d'harmoniser les vues.
Et au sud Kivu, la Société nationale d'électricité s'avoue un peu vaincue et disons incapable de répondre efficacement à la demande de ses abonnés.
La SNEL évoque principalement le problème de la baisse du niveau d'eau du lac Kivu et de la vétusté du matériel installé depuis 50 ans. Le directeur provincial de cette société de l'État congolais l'a déclaré aujourd'hui devant les représentants des différentes couches de la population, victimes des coupures intempestives, voire de l'inexistence du courant électrique dans plusieurs endroits au sud Kivu.
Le territoire de Pangui, dans la province du Maniema, connaît des difficultés sur le plan économique ces derniers temps.
Déclaration du président de la société civile de cette entité, il y a non seulement rareté des denrées alimentaires et pour ceux qu'on trouve, ils coûtent très cher. Selon Raymond Tchengi Ikasso, la raison principale est le fait que la population jeune préfère l'exploitation minière aux travaux champêtres. Par ailleurs, beaucoup de chantiers ne donnent plus de production comme dans les temps et les prix de minerais ne sont pas constants. Les prix des produits manufacturés eux aussi galopent chaque jour pour la seule raison qu'ils viennent des autres provinces par région.
Et la sous-traitance dans les entreprises et autres maisons commerciales en RDC devrait être l'apanage des entreprises locales.
Selon la loi, sauf en cas d'absence d'une expertise locale. C'est la déclaration du président national de l'Union pour le développement du Congo, UDECO, à Radio Okapi. Banda Mukalai prend pour preuve les documents comme les visas accordés aux étrangers, les cartes de service. Il demande que l'État congolais soit regardant en cette matière en vue de donner de l'emploi aux Congolais.
L'Union européenne promet son appui au budget 2010 de la RDC.
Il s'élèvera à près de 65,5 millions de dollars. Cette annonce a été faite hier au cours de la rencontre entre le ministre du budget et un représentant de la Commission de l'Union européenne. Selon Jørgen Willems, de la section économique, gouvernance et droits humanitaires de la Commission européenne, la priorité, c'est le domaine de la sécurité alimentaire. Jørgen Willems souligne que cette assistance permettra également au gouvernement congolais de faire face à d'autres difficultés des trésoreries.
Merci, Jocelyne Saupondé, pour ces infos en national. On vous retrouvera tout de suite pour les infos en inter, les infos économiques, bien sûr.
La nouvelle économique au bout du fil.
La nouvelle économique au bout du fil, ce soir, nous conduit à Matadi, dans le Bas-Congo, où nous retrouvons Guy Roger Niampala. Guy Roger, bonsoir.
Bonsoir, Georges Kamoudjova.
Oui, c'est la grogne au sein de l'hôtel Métropole de Matadi, qui est parmi les premiers hôtels construits en RDC.
Effectivement, Georges, il opère depuis 1930. L'hôtel Métropole a 5 étages. Retenez qu'à ses débuts, il était un hôtel 2 étoiles. Aujourd'hui, il est d'une étoile à cause de son état de délabrement.
Ouais.
38 chambres opérationnelles et 12 non exploitées, sans oublier les locaux que louent certaines entreprises de la place. Un véritable monument bâti en plein centre-ville de Matadi, en parallèle avec le gouvernorat du Bas-Congo, pour ceux qui connaissent la ville de Matadi, Georges Kamujova.
Et pour nous qui ne connaissons pas, merci pour cette image sonore, mais il y a grogne quand même.
Exact. Aujourd'hui, les employés réclament 40 mois d'arriérés de salaire. À cela, faut ajouter la réduction des salaires des cadres de 55% par l'employeur, ce qui a créé, selon les agents de cet hôtel, un vrai malaise au sein des employés.
Les arriérés concernent beaucoup d'agents ?
Ils sont 38, Georges, 38 agents salariés, ainsi que les cadres dont le nombre n'a pas été révélé.
Mais Guy Roger, à l'heure actuelle, que dit l'employeur qui est, je crois, un privé ?
Exactement, Georges, nous avons ce mercredi tenté en vain de joindre le propriétaire de cet hôtel, mais les agents nous ont laissé entendre que c'est l'impasse carrément. Les revendications ont été portées à sa connaissance, mais selon eux, aucun signe ne présage un dénouement fructueux. D'après ces agents, l'employeur leur a demandé d'attendre qu'il soit payé par ses créanciers, notamment la province du Bas-Congo, pour répondre à leurs revendications. Mais ces agents estiment que cet hôtel réalise des recettes avec notamment la location de ses locaux par différentes sociétés, notamment Zen Matadi, la Banque internationale de crédit ou encore la boîte de nuit appelée chez Temba à Matadi. Okay. Ils affirment avoir fait des propositions, notamment faire appel carrément à des associés pour redressement ou vendre carrément l'hôtel, mais sans suite. Voilà donc où on en est, Georges.
Merci beaucoup, Guy Roger. Affaire à suivre. Bonne soirée à Matadi où l'on écoute Radio Capi sur 102 MHz.
Merci Georges Kamujova.
Info économique en Afrique et à travers le monde. Je suis Moussaï Kondé.
Direction la bourse de Johannesburg, le minier sud-africain Metorex chute de 80% dans ses bénéfices.
Il s'agit de l'exercice terminé le 30 juin. La compagnie a perdu 1,5 million de rand contre des bénéfices de 700 millions en 2008. Metorex exploite le cuivre à Rwashi, à Lubumbashi. Et cette mine de Rwashi a exigé des fonds d'urgence au cours de décembre dernier, remboursable à la fin de novembre 2009. Metorex devrait vendre certains de ses actifs non stratégiques pour survivre. C'est le cas de la mine de platine en Afrique du Sud qui rapporterait près de 400 millions de rentes.
Et l'OPEP, confiante sur la reprise, maintient son niveau de production.
Les représentants de l'OPEP qui se réunissent à Vienne ont assuré qu'ils vont maintenir leur production à l'identique, reflétant un optimisme prudent sur l'évolution des prix du baril comme sur la conjoncture internationale. Le message envoyé par les ministres présents à Vienne est sans équivoque, alors que les prix du baril se sont redressés plus rapidement que prévu et que la reprise économique se dessine, modifier les paramètres du marché pétrolier serait risqué.
Et la Finlande est le pays de la zone euro les plus touchés par la récession.
L'économie finlandaise ne va pas mieux. Au deuxième trimestre de 2009, le PIB du pays a à nouveau chuté de 2,6%. Sur un an, la contraction atteint, elle, le taux très élevé de 2,9%. Il s'agit du plus fort recul de la zone euro.
Merci beaucoup à Jocelyne Moussaou, Écho d'économie sur Radio Capi, tout de suite, sa seconde partie.
Écho, reportage.
C'est le poisson qu'on a l'habitude de retrouver dans les plats des quinois. Les chinchards, appelés un piodi dans la capitale, se font rares et chers. C'est l'éco-reportage de Kaziraïdi et Kazadi qui a parcouru Kinshasa aujourd'hui.
Le prix actuel du poisson chinchard est au-dessus de nos moyens. Nous n'en pouvons plus. C'est ce que tentent d'expliquer ces ménagères, irritées d'acheter le kilo du poisson chinchard à 3500 francs congolais contre 1500 francs il y a quelques semaines. Anto tient un restaurant de fortune au marché Upen. Le poisson chinchard, jadis nommé Sauvons le Congo par ses clients, est aujourd'hui le pire cauchemar de tous. Il va jusqu'à entraîner la flambée de prix des autres vivres. Les distributeurs disent être en rupture de stock sans en connaître les raisons. Toutefois, certains sont prêts à réajuster le prix en cas d'approvisionnement. Confie Bonaventure.
Il n'y a pas une explication claire à ce sujet. Il y en a qui disent que parce que il y a complication à la douane, l'importation devient difficile. Il y en a qui disent que non, voilà, suite aux grèves des agents de l'ONACRA. Finalement, nous ne comprenons pas exactement qu'est-ce qui se trame derrière cette rareté-là. Si les stocks sont là, on va s'approvisionner et vendre au prix conséquent.
Importer les poissons, c'est aussi faire face aux exigences de fournisseurs, précise le directeur commercial et vendeur Lorgaman, l'un des trois principaux importateurs des chinchards au Congo, avec Inelka, Congo Future et Soutimex. Richard Moukoj renchérit que des dispositions sont prises pour éviter des interruptions à l'avenir.
Nous dépendons de l'extérieur, le poisson c'est à l'arrivée où on l'achète. On ne trouve pas de poisson à l'extérieur, donc la concurrence est là. Mais nous avons déjà pris des dispositions. Là, nous sommes sur le marché hollandais. Nous avons encore 1250 tonnes qui vont arriver donc, le 25 de ce mois.
Il faut en moyenne 10 000 tonnes de poissons chinchard pour sauver les ménages chinois de ce que l'on pourrait appeler la crise des poissons chinchard. Une crise, doit-on le dire, jamais connue dans la ville.
L'entretien de ce soir.
L'invité de l'économie ce soir est Wivin Landou. Je rappelle juste que vous étiez candidate à la présidentielle de 2006. Je vous avais reçu, c'est encore un plaisir de vous recevoir, mais cette fois-ci, on dirait que vous êtes transformée en une actrice économique.
J'ai toujours été une actrice économique. Là, je mets mon expérience de façon concrète au service de ma communauté congolaise tout entière.
C'est-à-dire que la politique a un peu déçu.
Non, absolument pas. Chaque chose a son temps. Hein. Pour le moment, je dispose d'une expérience, je dispose de temps, pour rendre à la communauté tout le bien qu'elle m'a fait.
Alors, très concrètement, c'est-à-dire que vous êtes initiatrice d'une micro-banque urbaine des femmes actives du Congo.
J'ai créé une banque communautaire au Bas-Congo. Maintenant, je suis en train de monter avec toutes les femmes que cela intéresse, une banque qui financera des projets des femmes.
Alors, la réunion du comité de pilotage de cette micro-banque urbaine des femmes actives du Congo a eu lieu ce mercredi. MIFAC, comme vous l'appelez, c'est quoi ?
Le plus important pour la MIFAC, c'est toutes ces femmes qui sont exclues du système bancaire traditionnel ou classique. Il faut les aider à avoir accès aux services financiers. C'est permettre aux femmes de pouvoir épargner. Parce que la femme qui va au marché, qui n'a que 150 dollars dans ses économies, est incapable d'aller dans une banque et d'ouvrir un compte épargne. Donc, à cette femme-là, il faut lui donner l'occasion d'épargner son argent. Il faut permettre aux femmes d'accumuler des dépôts financiers qui peuvent leur permettre d'engager des activités économiques créatrices de richesses. C'est ça, une des missions principales. Et l'octroi du crédit ne vient qu'en troisième position, mais celles qui sont commerçantes, qui veulent du crédit, peuvent l'avoir, mais le plus important, c'est d'accumuler de l'épargne. Mais aussi, la création de cette banque va permettre aux femmes de ne pas être des objets d'enrichissement d'autres institutions financières. Hein, il y a des institutions qui donnent du crédit à une femme, elle vous donne 100 dollars, un mois après, vous devez rembourser 120. Finalement, ce n'est pas ces sociétés qui donnent l'argent à ces femmes, ce sont les femmes qui donnent l'argent aux sociétés. Et qu'est-ce qui reste à ces femmes? Il ne leur reste rien. Nous, dans les statuts proposent, par exemple, si nous faisons un bénéfice d'autant, 40% sont réinvestis dans les banques, 40% sont distribués entre les membres et les 20% vont servir au financement des activités communautaires.
Alors, où comptez-vous trouver les fonds de démarrage de cette banque?
Bon, les fonds de démarrage de la banque, c'est d'abord les femmes qui allons les constituer nous-mêmes.
Comment?
Il y a des actions qu'il faut acheter. Nous allons mobiliser un capital d'abord. Le capital nous sert déjà soit au financement de projets, ou bien nous pouvons déposer ce capital dans un compte à terme, il peut nous générer des intérêts. Mais ce capital nous servira de caution pour solliciter des lignes de crédit auprès de notre parrain, qui est Afriland First Bank. Je donne un exemple.
Un capital de combien à peu près?
Le capital ne peut pas encore être arrêté aujourd'hui parce que nous sommes en phase de mobilisation des fonds. Nous pouvons arriver peut-être à 100 000 dollars. Si nous arrivons à 100 000 dollars, nous pouvons solliciter une ligne de crédit auprès d'Afriland qui peut aller peut-être au regard de projets que nous aurons à financer.
Afriland First Bank est votre partenaire.
C'est notre partenaire. Il y a deux structures d'appui. Il y a Afriland First Bank qui va s'occuper de la formation de notre personnel.
Alors, en parlant du capital, est-ce que les femmes vont détenir des parts dans cette banque?
Dans cette banque, les parts ne seront détenues que par les femmes en tant que personnes physiques ou par des associations des femmes. Et la banque, qui est la structure d'appui, viendra en appui financier aussi pour nous soutenir, soit dans le cofinancement ou dans le refinancement. Elle sera aussi notre commissaire aux comptes, comme elle sera aussi l'institution qui fera les audits.
Alors, sûrement, il y a des femmes qui nous écoutent en ce moment. Comment peuvent-elles entrer déjà dans le capital de cette micro-banque urbaine des femmes actives?
Il y a un compte qui sera publié. Nous avons ouvert un compte à Freedom First Bank où celles qui veulent prendre des participations peuvent verser l'argent.
Combien?
Et au moins, le minimum, c'est 50 dollars. Mm-hmm. Elles peuvent aller au-delà. Il y a d'autres auxquels nous donnons l'occasion d'aller progressivement, parce que la maman qui vend ses tomates ou ses bitekotekou, qui veut être actionnaire, mais qui n'a que chaque mois un bénéfice de 30% et qui veut aller progressivement. C'est aussi acceptable, chaque mois elle peut mettre 15 dollars ou 10 dollars, jusqu'à ce qu'elle atteigne ses 50 dollars, elle sera actionnaire dans la banque.
C'est peut-être par là que nous terminerons. Dans votre planification, vous comptez être effectif quand?
Et nous espérons inaugurer la banque avant le 31 décembre 2009.
Merci beaucoup, Wivin Landau, de nous avoir parlé dans cette émission Écho d'économie.
Merci beaucoup.
C'est avec vous donc que nous terminons cette émission réalisée par Berry Luchata, Daniel Tambizoni, Agathe Pona Kaziragi Kazadi, sous la supervision de Ben Kabamba. Pour ceux qui veulent nous retrouver, envoyez votre message à eco@radiookapi.net. Bonne soirée à tous et à demain.